Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Blague à part, l'émission qui vous ouvre les portes du monde de l'humour. Et aujourd'hui, on ouvre le premier épisode de la première saison sur le monde du stand-up. Et d'abord, on peut se demander c'est quoi le stand-up ? Eh bien, c'est un genre de spectacle où il y a un humoriste qui s'adresse directement au public, sans accessoires ni personnages, juste une manière spontanée, quasi improvisée. Et aujourd'hui, en première partie, on va recevoir Lola Destienne, une jeune humoriste qui va nous raconter ses débuts dans le monde du stand-up. Et en deuxième partie, on reste avec notre invité et nous allons jouer au jeu du petit bac revisité.
Blague à part, un jeudi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 et en podcast sur le site de radiocampusparis.org.
Et bonjour, pour ce premier épisode de Blague à part, on va s'immiscer dans la vie d'une jeune stand-upeuse bruxelloise et on reçoit Lola Destienne. Bonjour Lola.
Bonjour, tu vas bien ?
Ça va bien et toi ?
Oui, super.
Merci beaucoup d'être venue pour ce tout premier épisode. On va s'intéresser à comment on fait pour vivre de l'humour et c'est quoi le monde de l'humour et vraiment pour des personnes qui n'y connaissent rien. Puis on va parler en deuxième partie de ton spectacle. Première question, ça va vraiment être le comment on se dit « Tiens, j'ai envie de faire des blagues et d'être rémunéré.
» Alors, je crois que ça commence surtout par « J'ai envie de faire des blagues » et le rémunéré est un détail qui vient bien après. Moi, les premières scènes que j'ai faites, c'était des open mic et c'était vraiment pas rémunéré du tout. Mais je me sentais déjà tellement chanceuse d'être sur scène, ce qui n'est pas une bonne mentalité. Hein. Normalement, c'est du travail, on doit être rémunéré pour son travail, mais le déclic de « j'ai envie que ce soit mon travail à temps plein », c'est un peu arrivé l'année dernière après 2 à 3 ans de stand-up, même si je gagnais un tout petit peu d'argent grâce à ça et je commençais à avoir des contrats genre avec des entreprises qui sont en général le truc qui fait qu'on est bien payé dans le milieu du stand-up avant d'avoir en tout cas un spectacle qui remplit des salles de 700 places, ce qui prend du temps. Et je me suis dit, ah mais en fait j'ai l'impression que ce serait possible en fait de ne faire que ça de sa vie. Et il y a eu un déclic de, en fait il va falloir que je sois un peu plus premier degré parce que je crois que j'ai pas envie de faire autre chose. Et c'est la première fois que je fais un truc où je rencontre des difficultés et j'abandonne pas. Et j'ai envie de continuer à travailler. Donc moi, l'humour, ça a été très vite, au bout de 2 ans hein, quand même. Mais ça a été ce choix-là en me disant, en fait, si je ne le fais pas, je crois que je vais regretter toute ma vie. Et j'ai l'impression qu'en plus, les gens apprécient ce que je fais. Donc j'ai l'impression que ça va être une situation réciproque. Quoi. Donc que je vais profiter un peu de ce milieu et ce milieu va profiter de moi.
Oui, écoute, ça me fait très plaisir de profiter de toi, dans le bon sens du terme, bien sûr, hein, je précise. Mais tu as parlé de quelque chose qui est important, c'est quoi les contrats quand on est humoriste ? Comment on se rémunère ?
Alors, y a plein de manières. En général, en tout cas à Bruxelles, c'est le cas. Les open mic, c'est des scènes où on vient pour travailler, donc généralement, c'est pas rémunéré. Moi, je l'ai fait aussi au Kings of Comedy, et là-bas, il y a un minimum de rémunération quand même, parce qu'ils estiment que même si c'est une scène de travail, on doit pouvoir être rémunéré. Moi, j'ai travaillé pour un théâtre et je me suis rendu compte très vite qu'il y avait 1000 fois plus de moyens dans le théâtre que dans le milieu du stand-up, parce que le stand-up, c'est un art nouveau. En tout cas, c'est très rare que ça existe des résidences, des répétitions rémunérées. Et j'ai trouvé, moi, beaucoup de points communs, aussi parce que je traîne dans ces milieux-là, avec le drag, où le drag, en parlant avec des artistes drag, ils disaient, mais nous non plus, en fait, on a pas de rémunération quand on répète, on travaille sur scène, et généralement c'est sur des scènes qui sont payées au chapeau, et c'est difficile de se faire reconnaître en tant qu'art à part entière. Bon, le stand-up ça va quand même un peu plus vite, je pense, et le drag ça commence vraiment à être connu aussi. Mais d'abord donc il y a les open mic, puis après il y a les plateaux classiques, en général c'est aussi au chapeau. Moi mes premiers chapeau, j'ai dû avoir genre entre 7 et 12 euros quoi, pour 10 minutes de blague sur un plateau où on est 6 humoristes à passer. Et puis après, à Bruxelles, on a plusieurs structures qui en général font des trucs qui sont rémunérés, où on peut facturer. Et ça, c'est un gros game changer parce que ça veut dire qu'on peut commencer à économiser, enfin en tout cas à cotiser pour avoir l'équivalent de l'intermittence en Belgique qui s'appelle le statut d'artiste. Que moi j'ai demandé et que je devrais avoir bientôt, mais une société de droit d'auteur en Belgique, j'ai fait leur gala et d'un coup ça a été une grosse rémunération d'un coup. Et puis après il y a eu d'autres trucs, genre travailler pour le port de Bruxelles, ils m'ont demandé de faire des vidéos et ça on appelle ça une corpo. Ça veut dire qu'on travaille pour une entreprise sur commande et on écrit pour eux, et en général ça c'est bien rémunéré parce que ça reste des droits d'auteur, devoir travailler dans un court laps de temps. Mais en général, la scène ne suffit pas pour vivre du stand-up. Ou alors, il faut avoir le statut d'intermittence ou statut d'artiste. On n'est pas rémunéré quand on crée. Et c'est ça que permet le statut d'artiste ou l'intermittence, quoi.
Oui, et cette intermittence est nécessaire donc pour pouvoir être rémunéré en créant. Et malgré que tu ne l'as pas encore, tu as réussi à créer ton premier spectacle qui s'intitule « Pas ouf ce camping » que tu joues au King's Comedy Club à Bruxelles. Et j'aimerais bien savoir si dans ton spectacle, tu prends le temps de choisir de ne plus faire rire le public pour laisser place à quelque chose avec plus de gravité ou tu préfères enchaîner des blagues pour déclencher le plus de rire possible.
Alors moi quand même, mon spectacle, il y a quand même un fil rouge très fort autour du fait de devenir adulte. Je parle beaucoup de ma famille, je parle de tous les différents adultes avec qui j'ai grandi dans ma vie, enfin, en faisant beaucoup de blagues, mais c'est vrai qu'il y a un moment en particulier vers la fin du spectacle où je prends un peu plus de temps, mais je pense que ça, c'est quelque chose que là, pour l'instant, je suis encore très intimidée par l'idée qu'il y ait du silence et que je fasse peser un propos parce que j'ai peur aussi. Je crois qu'il y a ce truc dans l'humour où on a peur de trop se prendre au sérieux et qu'on se dit, bah, moi, je suis un clown, quoi, je suis là pour faire rire les gens. Mais moi, je sais que les spectacles que j'aime le plus, c'est ceux qui ont pris des gros moments de silence. Je pense à Anna Gatsby, à Daniel Sloss, et qui ont pris des... Mais là, j'ose pas encore, je crois. Je crois que c'est un truc qui va venir, mais pour l'instant, j'appuie pas trop, et aussi parce que j'ai pas envie, j'ai peur d'un spectacle qui ait un moment émotion, qui soit trop, genre, tire l'arme. Et je parle quand même de thématiques un peu lourdes, genre je parle du fait que mon grand-père a fait son coming out quand il avait 60 ans, je parle beaucoup du rapport aux parents et qu'est-ce que ça veut dire devenir adulte. Ce que j'aime beaucoup faire et ce que je pense que c'est ma vision de la chose, mais j'adore avoir un moment de tension, en tout cas que ce soit de la tension, du suspense ou alors... même de la tristesse et la désamorcer avec une grosse blague. Et je crois que moi, j'oserais avoir des gros moments de tension au moment où j'aurai des énormes punchs pour bien les désamorcer parce que c'est vraiment un rire de soulagement que j'adore vivre dans le public et que j'adore entendre aussi quand ça m'arrive d'avoir des blagues comme ça. Moi, j'ai. Là, le spectacle, je suis au début. Je l'ai joué 5 fois sous une forme de rodage la saison dernière et cette saison je le commence avec son vrai nom, donc pas ouf ce camping. Je me suis rendu compte d'ailleurs hier que c'était pas super malin de manière marketing de dire et votre spectacle pas ouf ce camping parce que les gens pensent que mon spectacle n'est pas ouf, mais en vrai c'est une bonne promo, je crois que c'est un peu rigolo. Mais oui, il y a des petites parties un peu deep. Pour l'instant, j'ai envie de bien maîtriser le rire du spectacle avant de vraiment créer ces moments. Et de travailler vraiment avec quelqu'un à la mise en scène ou à la dramaturgie pour pouvoir faire un truc qui soit propre et qui, je sais pas, moi j'étais voir par exemple le spectacle de Lou Trotignon, les moments d'émotion ils sont maîtrisés mais d'une manière incroyable. Quand il sort un truc, il l'a travaillé, ça fait pro, c'est ultra bien fait. Et moi c'est vraiment à ça que j'aspire et ça a mis du temps à ce que son spectacle ressemble à ça, quoi. C'est au bout d'un an et demi qu'il a vraiment osé aller plus loin sur la dramaturgie et aussi parce qu'il en avait les moyens et qu'il a travaillé avec des personnes qui sont super. Donc moi j'ai vraiment envie d'aspirer à ça, quoi.
Et tu as dit quelque chose d'important à la fin, il a travaillé avec des personnes super. Est-ce que toi tu t'es entouré ou tu as trouvé ou comment on trouve aussi ces personnes-là?
Alors moi ouais je travaille un peu ponctuellement avec des personnes de un parce que je n'ai pas encore les moyens de bien les rémunérer et pour moi c'est important de rémunérer les gens avec qui je travaille. Il y a Alexandra Henry qui est une coaching qui me donne c'est difficile à expliquer, j'ai l'impression que c'est des séances de psy quand j'en sors à chaque fois, mais elle coûte plus cher qu'une psy. Mais et c'est aussi surtout beaucoup de coaching en mise en scène et trouver le propos du spectacle justement. C'est quelqu'un qui travaille aussi avec l'Académie d'humour de Paris, donc moi j'ai vraiment une confiance totale en cette personne, elle est super. Et puis à l'écriture, j'ai un ami avec qui on écrit souvent qui s'appelle Léo. Il y a aussi un humoriste avec qui j'aime bien écrire qui s'appelle Matteo Siri. Et puis après, bah, il y a tous mes potes. En général, l'humour, on a tendance à penser que c'est un travail un peu solitaire, mais en réalité, très vite, on trouve ses copains de blague et on finit par moi, dès que j'écris un nouveau truc, je l'envoie à des potes, je dis est-ce que c'est rigolo? Et tout le monde fait des commentaires sur un Google Doc et c'est super, ou même de tester entre potes humoristes. Je pense que c'est super important dès qu'on commence l'humour de trouver ces personnes-là parce que c'est difficile de savoir si on est drôle si on n'a pas une communauté avec laquelle vérifier. Enfin, avant même d'aller sur scène, même si on ne sait jamais vraiment si une blague est drôle avant de la tester sur scène. Mais c'est important d'avoir ces personnes-là aussi pour pouvoir surmonter tous les trucs difficiles du milieu, hein, les bides, les scènes mal rémunérées, les vieux gars qui vont t'annoncer comme mais la prochaine, c'est la seule meuf de la soirée et elle est mignonne. Et genre ce genre de choses, c'est bien d'avoir des gens autour de soi pour se dire ah, j'ai ma petite commu d'amis. Et donc ces personnes-là, moi j'estime, ce sont mes collaboratrices les plus importants.
Mais est-ce que dans ton processus créatif, tu fais appel à quelqu'un comme une coautrice ou un coauteur?
Et je crois que j'ai encore trop d'ego pour me dire, je vais demander à quelqu'un de m'écrire des blagues ou à dire. Mais j'aime bien travailler avec des personnes qui vont m'aider à débloquer des angles. Enfin, parfois j'ai une idée, j'ai un angle, je suis là, ah j'ai trop envie d'exploiter ce truc-là, mais je sais pas par quelle boule prendre ou est-ce que c'est vraiment intéressant, toi, qu'est-ce que ça te fait, à quoi ça te fait penser quand je te parle de ça? Et je sais que là, dans ce travail-là, le travail de co-auteur est vraiment ultra important. Maintenant, je crois qu'il y a un peu un truc d'ego, ouais, d'avoir envie d'être la seule génitrice de ma blague.
Merci Lola de nous avoir ouvert les portes du monde du stand-up. Tu restes avec nous pour la deuxième partie.
Blague à part, un jeudi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 et en podcast sur le site de radiocampusparis.org.
Et Lola Destienne est toujours avec nous pour la deuxième partie de cette émission, le petit bac revisité. On va jouer au petit bac classique, mais avec des catégories inédites, comme le nom d'une marque de vêtements des années 2000 ou un nom d'aristocrate. Et ça commence toujours par la même lettre. La grande nouveauté, c'est qu'on peut inventer des réponses tant qu'elles sont drôles. Je t'ai donné, Lola, juste avant l'émission, toutes les catégories, et pour la lettre, on s'était arrêté sur la lettre D. On va se laisser le temps d'une petite pause musicale pour écrire nos réponses, et on se retrouve juste après.
I have my sentence now, at last I know just how you felt. I dig my fingers in, expecting more than just the skin. Cause we're a lot alike in fever, like a motorbike, a sailor and a nightingale, dancing in convertibles. And you can hold me like he held her.
D'écouter Nothing Matters de The Last Dinner Party. Et pour notre dernier moment avec Lola Destienne, on va vous donner nos réponses au petit bac revisité, où on est tombé sur la lettre D, comme Diddle pour les personnes nées dans les années 90 ou Dora pour les 2000. Prête Lola ?
Je crois que je suis prête.
On avait une première catégorie, un nom d'aristocrate, et donc c'était avec la lettre D. Qu'est-ce que t'as trouvé ?
Mais écoute, moi je suis pas allée chercher très loin, j'ai mis Destienne d'Orve, parce que je me suis... On va rester dans l'autopromo, hein, c'est mon nom de famille.
Exactement, et donc t'en parles aussi dans ton spectacle, de tout ce côté à toute ta famille aristocrate.
Absolument, spoiler, ils sont un peu de droite.
Un petit peu, oh, c'est marrant ça comme idée.
Trop bizarre.
Ouais. Alors moi j'ai trouvé Dante de Grande Champagne en Chalon en Champagne.
Ah oh, waouh, c'est la... ça je crois que c'est des cousins.
C'est des cousins. Ah c'est ça, c'est pour ça que ça me disait un truc. J'ai vu ton spectacle, j'ai fait OK, non mais vraiment j'en ai aucune imagination. écoute, on va passer au prochain, un concours sportif loufoque.
D'accord. Alors moi j'ai choisi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué sur les internets en étant le concours de danse de forêt. Parce que en ce moment il y a une dame qui fait de la danse de forêt sur internet que j'adore avec un et qui il y a des gens qui ont remixé sa musique en disant qu'elle a combiné ses trois passions, la danse, la forêt et la solitude. Et la danse de forêt, pour moi, ça, je pense, j'ai envie de voir ça au JO, quoi.
C'est génial, j'adore cette idée, j'avais pas du tout pensé. J'aime beaucoup. Moi, j'avais tennis de table. C'est le tennis de table, mais avec le nez bouché et tu marques un point quand tu te mouches.
C'est très drôle. C'est extrêmement drôle. J'aime beaucoup.
La prochaine catégorie, le nom d'une marque de vêtements des années 2000.
Alors, j'ai une réponse premier degré et une réponse... d'abord, j'ai noté DDP parce que je suis hilarante, en fait. Et puis après, je me suis dit, ah, qu'est-ce qui a vraiment marqué mes années 2000? Et je me suis dit, le déni, parce que je pensais que j'étais hétérosexuelle. Et voilà. C'était super.
Okay.
En même temps, j'ai 10 ans.
Et bah écoute, moi j'attends cette marque, j'espère que c'est aussi bien que Desigual. Tu vois, je vois bien des vêtements à la Desigual, une marque Denny comme ça. Ça irait super bien. Tu vois, un peu, tu sais pas trop pourquoi, il y a plein de couleurs partout, mais il y a un truc, tu sens qu'il y a un truc, mais ça veut pas sortir.
C'est vrai que les gens qui portaient des Desigual dans les années 2000, je pense que tout le monde est gay depuis. Genre, je crois que c'était. Il fallait.
Et c'est comme ça qu'on se reconnaît, peut-être aussi.
Oui, c'est ça. Plus besoin du trousseau de clé à la ceinture. Je portais du Desigual maintenant.
C'était beaucoup plus simple. Un peu plus cher, mais beaucoup plus simple.
Ouais.
Moi, j'avais juste trouvé Découverte 3000. Parce que ça fait un peu. On rajoutait toujours des chiffres énormes. Comme ça, c'était genre incroyable. Je sais pas pourquoi. C'est le seul truc. Ça me fait penser à Nature et Découverte. Je pense que c'était ça. Un peu d'inspiration là-dessus. On va passer à la suivante. Le nom d'une loi européenne.
Alors. Moi, j'ai mis celle que je passerai en fait, la déclaration des droits au fun, parce que je suis gaga de fun et je trouve qu'il devrait y en avoir à tous les étages. Et je suis aussi pas du tout ringarde comme personne.
Non, moi, je te suis complètement sur cette loi. Si on peut, tu peux écrire un petit truc, tu l'envoies, je suis sûre que ça serait pris directement.
Ouais, GPT, il va me faire ça en 2-2.
Exactement. Moi, j'avais trouvé Dada des chaussettes dans les sandales. C'est une loi menée par les Allemands au niveau du luxe et de la mode.
Ah, mais oui, je vois, ouais. En plus, on est en pleine Fashion Week, donc c'est à propos, quoi.
Exactement, j'avais pas du tout fait exprès. Bah, écoute, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir joué avec moi. J'espère que ça t'a plu. On va te rappeler un peu ta promo. Donc, tu as un spectacle au King's Comedy Club et tu as un Instagram à Lola Destienne. Merci beaucoup d'être venue et d'être la première invitée de Blague à part.
Mais avec plaisir.
Merci à vous, auditeuristes, d'avoir écouté Blague à part. Et malheureusement, c'est la fin, mais on se retrouve dans 2 semaines, toujours à 18h sur le 93.9.